Bonsoir à tous. Je suis encore heureux d'ouvrir la parole avec vous dans l'Épître aux Éphésiens, pour commencer, dans le chapitre 2 et au verset 8. Éphésiens, chapitre 2, verset 8. Très tôt ce matin, cette pensée s'est imposée à mon cœur alors que je demandais au Seigneur quel était le sujet qu'il voulait qu'on aborde. Cette pensée que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais par la foi. Et on vérifie que ce soit bien conforme à la parole de Dieu. Éphésiens 2, verset 8, il nous est dit ceci, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Et on complète tout ça dans l'Épître aux Romains, chapitre 3, et verset 28, lorsque l'apôtre Paul a écrit ces paroles, a dicté ces paroles, qui sont là pour nous, inspirés tout droit du Seigneur. Je crois que s'il dit « nous pensons », je crois qu'il était pleinement convaincu de ce qu'il affirmait, de ce qu'il disait. Il est dit ici « car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi ». Et ce que je voudrais partager avec vous, c'est cette vérité, cette chose qui doit vraiment être dans notre cœur, dans notre esprit. Si vous découvrez pour la première fois l'Évangile, si vous rentrez pour la première fois dans une église, mon désir ce soir, c'est que vous puissiez ressortir en ayant cette conscience que ce n'est pas par vos œuvres, même les œuvres de la loi de Dieu, que vous pourrez être sauvés. Ce n'est pas par vos efforts, ce n'est pas par vos mérites que vous obtiendrez le salut, mais par le sang de Jésus, par Jésus-Christ et son sang qui a coulé à la croix. On continue nos lectures dans l'Évangile de Marc et nous allons voir ce soir qu'il y a deux personnes qui ont eu un comportement tout à fait différent dans leur vie et qui nous prouvent encore que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Évangile de Marc, chapitre 10, verset 17. « Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. » Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Amen. Il nous est raconté ce récit, cette histoire vraie, ce n'est pas une histoire inventée pour avoir une quelconque philosophie, c'est vraiment quelque chose de réel qui s'est passé. Jésus était en chemin, un homme court vers lui, se jette à ses genoux et il vient comme un cri du cœur. Il dit voilà, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir le paradis, pour aller au ciel, pour avoir l'assurance que je ne vais pas en enfer? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Il avait ce souci, cette inquiétude, ce désir de savoir s'il était sauvé. S'il était sauvé, s'il allait au ciel. Il sentait, savait que dans sa vie, il y avait quelque chose qui lui manquait. Il sentait qu'il y avait quelque chose qui n'était pas clair. Il n'avait pas l'assurance d'être sauvé. Est-ce que c'était bien de s'inquiéter de ça? Est-ce que je suis sauvé? Oui, non? Non? Wow. Et si, c'est très bien ce qu'il fait de s'inquiéter de son éternité. Où va-t-il aller après cette vie sur la terre? Peut-être que quelqu'un est dans ce même cas ce soir, il ne sait pas s'il est sauvé et il aimerait bien en avoir l'assurance. C'est possible. Peut-être que vous vous dites, mais que dois-je faire? Que dois-je faire? Et j'aimerais vous poser une question, est-ce qu'il faut payer pour rentrer au ciel? Combien faut payer? Dites-moi la somme. La dîme, 10% de ce qu'on gagne. Est-ce que c'est la dîme, c'est parce que je vais faire des offrandes que je vais gagner le ciel ou le paradis, ma place au paradis? Est-ce qu'il faut payer? Monsieur Go nous racontait cet homme qui voulait donner ses maisons pour aller au ciel. Hein? Je suis prêt à donner mes maisons. Si je donne mes maisons, est-ce que je vais au ciel? Bon, il peut donner ses maisons, mais il n'ira quand même pas au ciel. Hein? Il y a autrefois, il était mis des chaudrons devant les églises où on mettait de l'argent pour gagner un peu de temps, être moins de temps en purgatoire, aller un peu plus vite au ciel, vous voyez, et être un peu plus sûr d'aller au ciel. Non, payer, c'est pas la solution. Est-ce que nos souffrances peuvent eh bien, nous donner une place au ciel? Plus j'ai souffert, plus je vais aller au ciel. Qu'est-ce que vous en pensez? Il n'y a personne qui connaît le Seigneur ce soir. Les souffrances, mais non. Mais non, Dieu n'a pas dit plus vous souffrirez, plus vous irez au ciel, plus vous serez sûr d'y avoir. Avoir l'assurance d'aller au ciel, ce n'est pas parce que j'ai souffert dans ma vie. Combien de personnes disent de toute façon, moi, ma place, je la mérite, j'ai tellement souffert. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Au journal télévision, chaque année, on voit les gens qui se font crucifier. Hein, crucifier pour mériter le ciel. Ça ne rajoute rien. Un est crucifié et ça suffit, c'est le Seigneur Jésus. Lire toute la Bible. Aux instructions au baptême, on me disait, est-ce qu'il faut lire toute la Bible pour aller au ciel? On m'a posé cette question. C'est une bonne question, après tout. Et est-ce qu'il faut lire toute la Bible? Si je lis toute la Bible, je veux aller au ciel. Non, c'est pas ça non plus. Même si c'est très bien de la lire, c'est important même de la lire pour savoir ce que Dieu veut nous dire. Est-ce que c'est gravir la pyramide de Khéops, les yeux bandés et les mains liées, qui va faire que je vais mériter le ciel? Un pèlerinage quelconque? Pas du tout. Aucun pèlerinage, on ne trouve pas ça dans la parole de Dieu. Aller sur la lune, on ne l'a pas trouvé le Seigneur, ça ne rapproche pas de Dieu. S'appauvrir, faire vœu de pauvreté, non plus. Travailler dur, non, ce n'est pas comme ça qu'on va au ciel. Être pasteur, monsieur Go, ça vous offre la place au ciel? Est-ce que c'est être pasteur qui nous offre la place au ciel? À toutes ces choses, on peut répondre une même chose, ça n'est pas dans la parole de Dieu et c'est non. Ce n'est pas par les œuvres, mais gratuitement qu'on va au ciel, par un changement de cœur. Voilà ce que Dieu veut faire. Il faut que votre cœur change. Il faut que votre cœur s'ouvre pour obtenir le salut. On va voir un petit peu ce que je veux dire là. On a un cœur sans Dieu tant qu'on n'a pas reçu cette vie. Eh bien, un cœur sans Dieu, c'est un cœur qui ne croit pas. Un cœur qui ne croit pas. Parce que si je ne crois pas en Dieu, je ne peux pas avoir le Seigneur dans mon cœur, la vie éternelle, ce qu'il a prévu pour moi. Je parlais avec mon voisin et il me disait, moi je veux... J'ai offert un livre de méditation sur la parole de Dieu. Et puis il m'a dit, oula, mais est-ce que ça ne va pas m'endoctriner tout ça? Je dis, mais vous ne croyez pas en Dieu. Qu'est-ce que vous avez à craindre? C'est pas vrai? J'ai dit ça, vous ne croyez pas, alors vous avez quoi à craindre? J'ai à moins que vous croyez. Incrédule, peut-être insensible, inconscient, orgueilleux. Et Dieu veut changer notre cœur, un cœur qui choisit de croire. Premièrement, comment avoir la vie éternelle? Il faut d'abord croire. Être sensible, conscient et humble. Alors on va voir un petit peu tout ça. Incrédule qui refuse la parole de Dieu. Voilà. On ne peut pas avoir la vie éternelle si je refuse de croire et d'appliquer ce que la parole de Dieu dit. Insensible, on ne réalise pas que Dieu est là. Est-ce que vous réalisez que Dieu par son esprit est au milieu de nous? Si j'ai un cœur insensible, je ne peux pas recevoir ce que Dieu a prévu pour moi. C'est bénédiction. Inconscient de la gravité du péché et de ses conséquences. Les conséquences sont décrites dans la parole de Dieu. La première des conséquences, c'est qu'on est séparé de Dieu. Et ce, pour l'éternité, à moins qu'on règle l'affaire du péché. Orgueilleux, ceux qui pensent qu'ils n'ont besoin de personne, de rendre compte à personne, et qu'ils sont maîtres de leur destin. Beaucoup de personnes pensent qu'ils sont maîtres de leur destin. Si on est dans ces conditions, on ne peut pas obtenir la grâce de Dieu, le pardon et le paradis. Il nous faut réfléchir, et je vous invite à réfléchir. Si c'est votre cas, vous pensez que vous n'avez besoin de personne, rendez compte à personne, réfléchissez. Car la parole de Dieu, la parole de vérité, dit l'inverse. Il nous faut un cœur qui choisit de croire la Bible, la parole de Dieu. Quelle est la parole de Dieu? Un cœur sensible, comme je l'ai dit, Dieu est là. Il existe, il y a bien un créateur. Si on voit toutes sortes de choses sur notre planète, il y a quelqu'un qui l'a créé. Ce n'est pas apparu d'un coup. Et même s'il y avait un Big Bang, même si le Big Bang avait vraiment existé, qui c'est qui a allumé l'étincelle, qui a gratté l'allumette? Qui c'est qui a fait ça? Qui c'est qui a fait en sorte que tout ça concorde? Même si on pouvait prouver qu'il y avait eu un Big Bang, il y a celui qui a fait le Big Bang. Encore et à chaque fois, il y a toujours quelqu'un. Je le crois. Sensible à la présence de Dieu, il y a un maître. Dieu n'est pas n'importe qui. Dieu n'est pas un porte-bonheur. Je ne peux pas vivre ma vie avec ma religion qui va me porter bonheur. J'ai Dieu de mon côté puisque je suis de telle étiquette, telle religion, tel mouvement. Ce n'est pas ça qui touche le cœur de Dieu. Ce n'est pas ça, qui va faire que Dieu nous donne le salut. Conscient qu'un jour tout homme rendra compte pour sa vie, pour ce qu'il en aura fait. Cette vie que Dieu lui a prêtée, lui a donné un temps. Un cœur humble qui dit oui Seigneur, je réalise que... Ne serait-ce qu'avec les quelques commandements qu'on a lus, et si on rajoutait le mensonge, si on rajoutait toutes ces choses, eh bien je réalise que je suis coupable. Cet homme croyait venir devant Jésus en disant, voilà, mais moi j'ai fait toute la loi, j'ai accompli, regarde, Seigneur, depuis ma jeunesse, je ne fais que ça, j'obéis, je mets en pratique ces commandements, la loi de Dieu, la loi qui a été donnée par Dieu, je la mets en pratique. Mais il réalise qu'il nous manque quelque chose. Et en deux temps, trois mouvements, en très très peu de temps, Jésus le met en face du fait que la loi, il ne l'a pas accomplie à la perfection. Parce que celui qui veut être sauvé par la loi doit l'accomplir à la perfection, toute sa vie, de sa naissance à sa mort, sans jamais la transgresser. Et c'est impossible. Le verdict est là, dans Romains, il est dit ceci, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On est tous au même rang. On est tous au même rang. On a tous transgressé la loi de Dieu. Mais voilà, Dieu ne veut pas qu'on aille en enfer. Dieu ne veut pas nous perdre. Il veut nous sauver. Alors, un cœur humble, c'est dire, Seigneur, je te demande pardon pour mon péché. Pardon, je reconnais que j'ai transgressé ta loi. Je reconnais que je suis souillé par mon péché et que je ne peux pas me présenter devant toi. Encore moins passer l'éternité dans ton paradis, devant toi, puisque tu es saint, tu es parfait. Et moi, je suis souillé. Reconnaître un cœur humble, c'est un cœur qui reconnaît qu'il doit à Dieu la vie. Il doit à Dieu la vie, il n'est pas arrivé par hasard. Et si vos parents n'ont pas prévu votre naissance, votre procréation, s'ils n'ont pas fait exprès de vous procréer, Dieu a prévu que vous soyez sur la terre. Vous n'êtes pas un accident, Dieu vous aime. Dieu porte sur vous un regard d'amour et vous avez de la valeur à ses yeux et dans son cœur. Soyez-en sûrs, toute la parole de Dieu nous montre que Dieu s'intéresse à chacune de nos personnes. Et lorsque cet homme-là est là, devant Jésus, en train de lui parler de son problème, il a une inquiétude, il a besoin d'assurance. Jésus, qu'est-ce qu'il est dit? Il le regarde et il l'aima. Parce que Dieu aime les hommes. Jésus est venu sur la terre, il aime encore les hommes. Pardon, je te dois la vie. J'existe pour toi. Croyez-vous que la vie que vous avez sur la terre, elle vous est donnée pour faire tout ce que bon vous semble et puis après elle s'éteint et c'est tout? Vous ne croyez pas qu'il y a un avenir, une raison pour votre vie un peu plus noble que celle-là? S'il y a vraiment un Dieu vivant, un Dieu vrai, un Dieu puissant, un Dieu qui peut bénir, un Dieu qui peut sauver, qui pardonne malgré le nombre d'iniquités et de péchés, un Dieu qui veut racheter encore ceux qu'il a créés. Vous ne croyez pas qu'il a fait l'homme pour quelque chose un peu plus noble que faire sa vie comme ça, vagabonder sur la vie, avec même des projets, aussi nobles soient-ils? Il veut qu'il soit à son service. On a été créé pour Dieu. Vous cherchez un but à votre vie, le but, c'est de servir Dieu de tout votre cœur. De venir auprès de lui, d'être pardonné, purifié, lavé, d'avoir une espérance formidable d'aller au ciel pour l'éternité, là où il n'y aura plus de pleurs, de grincements de dents, plus d'angoisse, plus de ténèbres, plus de solitude, la présence de Dieu pour l'éternité. Voilà ce à quoi Dieu vous appelle. Et sur la terre, en attendant d'aller là-haut, eh bien, il veut se servir de vous, être utile dans les mains de ce grand Dieu. Voilà le projet de Dieu. Que sa gloire éclate dans votre vie. Que sa gloire éclate par des expériences que vous ferez avec lui. Oui, un cœur humble, c'est un cœur qui dit « Ma destinée est dans ta main. Je ne maîtrise pas le lendemain. Mais toi, les temps t'appartiennent. Je le sais. La Bible le dit. Je le crois. » C'est un cœur qui dit « Que veux-tu que je fasse ?» Vous vous souvenez de Paul sur le chemin de Damas? Quand Jésus se révèle à lui par une grande lumière, cet homme a vu une grande lumière comme ça qui resplendit, puis une voix qui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il dit « Mais il te serait dur de regimber contre l'aiguillant. Mais qui es-tu, Seigneur ? Je suis Jésus que tu persécutes. » Paul croyait servir Dieu, mais il luttait contre Dieu. Et quand il se retrouve devant Jésus, il est là, il dit « Que veux-tu que je fasse ? Que veux-tu que je fasse ?» Il a compris qu'il y avait un but différent dans sa vie que la violence d'enfermer des gens, parce qu'il croit au nom de Jésus. Alors cet homme, oui, je relève deux points, il a failli quant à la loi, et en très peu de temps, Jésus l'a mis en face, du fait que même s'il a fait toutes sortes d'œuvres, eh bien il y a quand même quelque chose, il aime son argent, ses biens, plus que Dieu. Et ça, c'est un des commandements de Dieu. Eh bien, d'aimer Dieu par-dessus tout, en premier, dans notre vie, puisqu'il est Dieu, notre Créateur. Deuxième chose, il refuse de suivre Jésus. Jésus lui lance un appel formidable. Il lui dit, viens, suis-moi. Cet homme, il oublie même ça. Il ne veut pas abandonner ses biens, il repart tout triste. Viens, suis-moi. Qu'est-ce qu'il aurait vu, cet homme, s'il avait suivi Jésus jusqu'au bout? Des miracles? Des guérisons, toutes sortes de choses, il aura entendu les paroles de Dieu. Qu'est-ce qu'il aurait vu d'autre à la fin de la vie de Jésus sur cette terre? La croix? La croix? ce merveilleux message qui dit que Jésus meurt à la croix pour nos péchés, pour que nous puissions être pardonnés, parce que si on peut obtenir la vie éternelle, alors que nous sommes pécheurs, c'est parce qu'il y en a un, Jésus-Christ, qui est mort à la croix, à notre place. Il a subi l'enfer à la croix, à notre place. Je dis l'enfer parce que, abandonné du Père, séparé d'avec Dieu, dans les ténèbres, les angoisses, les souffrances, toutes ces choses qu'il a vécues à la croix, et j'en passe, n'est-ce pas ce qui attend ceux qui vont aller en enfer? Alors que Dieu nous veut tous avec lui au paradis. Amen. C'est pas vrai? C'est ça qu'il veut. Lui, il est reparti tout triste, mais ce soir, vous ne partirez pas tout triste. En tout cas, je l'espère. On va voir un deuxième homme. On fait une première lecture dans Deutéronome, chapitre 18 et verset 10. On a vu cet homme, en tout cas, riche, qui a accompli toute la loi. Il voulait vraiment, il a manqué qu'à un commandement, on va dire, à la limite. Dans Deutéronome, chapitre 18, verset 9, il nous est dit, « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. » Nous découvrons dans ce texte que Dieu a en abomination, il a en horreur, c'est comme si ça crée en lui un vomissement, il rejette tous ceux qui pratiquent la magie, les devins, les astrologues, invoquer les esprits, toutes ces choses-là, parler aux morts, ça déplaît à Dieu, il ne peut tolérer ça, c'est en abomination à ses yeux. Avoir des idoles, toutes ces choses, ça déplaît à Dieu au plus haut point. Pourtant, dans notre monde, on voit que beaucoup de personnes vont voir des voyants. C'est monnaie courante. Lire l'astrologie dans les magazines. Sur n'importe quel magazine qu'on prend, quasiment, il y a une publicité ou alors une page sur la bonne aventure. Qu'est-ce qui va vous arriver cette semaine, aujourd'hui, demain, peu importe. Ça déplaît à Dieu. Que quelqu'un qui pratique ces choses ou qui s'attache à ces choses ne croit pas plaire à Dieu ou attirer sa faveur, sa grâce. Il déplaît à Dieu. Je vous le dis vraiment pour vous avertir. Et on va voir qu'il y a un homme qui s'est plongé dans ces choses au plus haut point. Il s'appelle Manassé. Dans 2 Chroniques, chapitre 33. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi et il régna 55 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias son père avait renversés. Il éleva des autels au Baal. Il fit des idoles d'Astarté et se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel. Quoique l'Éternel ait dit, c'est dans Jérusalem que sera mon nom à perpétuité. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Hinnom. Il observa les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Il s'adonnait à la magie et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Il plaça l'image taillée de l'idole qu'il avait faite dans la maison de Dieu, de laquelle Dieu avait dit à David et à Salomon son fils, « C'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux à toujours placer mon nom. » Verset 9. Mais à cause de Manassé, Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple, et ils n'y firent point attention. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. Lorsqu'il fut dans la détresse, regardez bien, il implora l'Éternel son Dieu, et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa des prières et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Après cela, il bâtit en dehors de la ville de David, à l'occident vers Guion, dans la vallée, un mur qui se prolongeait jusqu'à la porte des poissons et dont il entoura la colline. Et il éleva à une grande hauteur. Il mit aussi des chefs militaires dans toutes les villes fortes de Juda. Il fit disparaître de la maison de l'Éternel les dieux étrangers et l'idole. Et il renversa tous les autels qu'il avait bâtis sur la montagne de la maison de l'Éternel et à Jérusalem, et les jeta hors de la ville. Il rétablit l'autel de l'Éternel et y offrit des sacrifices d'action de grâce et de reconnaissance. Et il ordonna à Juda de servir l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le peuple sacrifiait bien encore sur les hauts lieux, mais seulement à l'Éternel son Dieu. Le reste des actions de Manassé, sa prière à son Dieu et les paroles des prophètes qui lui parlèrent au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, cela est écrit dans les actes des rois d'Israël. J'ai voulu qu'on lise vraiment toute cette histoire pour qu'on comprenne ce qu'a fait ce roi. Il connaissait, en tout cas il avait toutes les raisons de connaître, d'avoir l'opportunité de connaître Dieu. Il est le roi du peuple de Dieu. Il est le maître, le roi du peuple de Dieu. Il a une copie de la loi de Dieu. Il sait très très bien, la loi de Moïse, il sait très très bien ce que Dieu ne veut pas, ce que Dieu lui demande de faire. Il avait ordre de méditer la parole. Il devait la lire. Il devait en avoir une copie. Tous les rois avaient une copie de la loi de Moïse pour vraiment l'appliquer, veiller à ce qu'elle se pratique et qu'elle soit appliquée dans le peuple. Et pourtant, ce roi fait absolument tout l'inverse. Vous avez vu? Tout ce qu'on a lu dans Deutéronome 18, 9 à 13, il a tout fait l'inverse. Tout, tout, tout. Lui, c'est sûr, les œuvres, il ne les a pas faites. En tout cas, pas les bonnes. Il n'a pas fait la loi. La loi, il ne l'a pas obéi. Contrairement à cet homme riche, qui avait tout bien respecté, fait attention depuis sa jeunesse, il avait regardé peut-être un truc. Cet homme-là, il a fait tout l'inverse. Le premier est reparti tout triste, malgré qu'il ait pris du temps et qu'il ait appliqué la loi depuis sa jeunesse. Et lui, alors qu'il se trouve dans le désespoir, puisque Dieu lui a bien fait comprendre, a permis une situation qui le fasse réfléchir, il nous est dit, lorsqu'il fut dans la détresse, verset 12, il implora l'Éternel, son Dieu, et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. La seule chose qu'il ait fait de bien, à un moment donné, la seule chose importante qu'il ait fait de bien, si on doit retenir quelque chose, c'est vraiment ça, c'est qu'il s'est humilié profondément devant Dieu et il a invoqué Dieu. Il l'a prié. Il a fait monter une prière à Dieu. Il nous est dit qu'il était dans des chaînes d'airain. Il avait les fers. Il a été emporté en tant qu'esclave, en tant que prisonnier de guerre. Les chaînes d'airain, dans la parole de Dieu, l'airain nous parle de la colère, du jugement de Dieu. Il était sous le jugement de Dieu, dans la colère. Ça se comprend, Dieu avait dit de ne pas faire, il a fait tout ce qu'il fallait afin d'irriter Dieu. Il est dans ses chaînes, prisonnier de son péché, conséquence de son péché. Pourtant, il ne fait qu'une chose, il s'humilie profondément et il prie. Vous avez vu ce qu'il est marqué? Dieu se laissa fléchir et il exauce ses supplications et il le ramène dans son pays. Vous savez ce qu'on faisait aux rois prisonniers? On les gardait comme un trophée, puis au bout d'un moment, on les tuait. On les gardait comme un trophée, puisqu'on était contents, on montrait, hein. Regardez, tous les royaumes alentours, on les faisait venir, venez voir le roi, il est dans ma prison, on se moquait, peut-être dans les repas, on le faisait venir, on l'humiliait. Et quelquefois, ça arrivait qu'on le tuait, on allait jusqu'à le tuer. Et lui, il rentre chez lui. Elle est belle quand même, la restauration de Dieu. Quand Dieu restaure un cœur, un homme, une femme. Et c'est ce qu'il veut faire avec chacun d'entre nous. Ce n'est pas par la loi, par les œuvres de la loi, par les mérites, par toutes sortes d'efforts qu'on va faire, qu'on va mériter le salut et la grâce de Dieu. C'est par un cœur humilié, un cœur qui croit, sensible à la présence de Dieu, qui réalise qu'il y a un Dieu, qu'il est là au milieu de nous. Un cœur conscient de la gravité de ses péchés, au point de s'humilier, de dire pardon, pardon Seigneur. Vous avez vu, après il recommence à faire des sacrifices au bon Dieu. Il enlève toutes les idoles, il remet les sacrifices, mais d'action de grâce et de reconnaissance. Les autres, il ne nous en est pas parlé. D'action de grâce et de reconnaissance. Et toutes les œuvres qu'il a fait après, c'était pour dire merci Seigneur, par reconnaissance au Seigneur. Et toutes les œuvres qu'on doit faire quand même, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant, ce n'est pas pour mériter le ciel, c'est par reconnaissance envers le Seigneur. On s'en souviendra de ça ? Que ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, et que si maintenant on fait des bonnes œuvres, c'est pour glorifier le Seigneur et pour lui dire merci. Amen. Imaginez Manassé. Imaginez Manassé. La joie qu'il a dû avoir, il ne devait pas en croire ses yeux. Il a passé ses fils par le feu. Il a tué ses fils pour des idoles, des statues, des dieux qui n'existent pas, muets, sourds, aveugles, alors qu'il avait l'opportunité d'être le roi du peuple, du vrai Dieu qui entend les supplications, qui entend les prières, qui entend les cris même de nos cœurs. Il entend la voix de nos larmes. Pour vous dire que si quelqu'un était triste ce soir, avait un fardeau, quelque chose, Dieu peut venir le consoler, le guérir comme on a chanté, le sauver. Gloire à Dieu. Quelle personne voulez-vous être? Quelle personne voulez-vous être? C'est tout choisi, vous allez me dire. Il suffit de s'humilier. Vous savez pourquoi c'est possible d'obtenir la grâce? Parce que Jésus a payé à la croix. Ce qui était impossible pour nous, d'accomplir la loi, Jésus l'a accompli. La loi, elle n'est pas abolie. Mais pour nous, c'était impossible de l'accomplir. On l'a déjà transgressé, c'est trop tard. Mais Jésus lui a accompli. Il l'a accompli à la perfection. Et il a quand même porté le châtiment de ceux qui ne l'accomplissent pas. Pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Aller au ciel. Avoir l'assurance qu'on a le pardon de nos péchés et qu'on va au ciel. Qu'après ce moment sur cette terre, où on aura la joie de ce qui nous attend, on ira dans le ciel. Dans la félicité, la gloire, dans l'éternité avec Dieu, pour passer des très, très, très bons moments. Vous voulez en faire partie? Amen. Alors tenons jusqu'au bout la foi et gardons ce cœur qui nous a été donné, qui a été changé par le Seigneur, qui croit, qui est sensible à la présence de Dieu chaque instant de chaque jour. Soyez sensible à la présence de Dieu, sensible à ce que Dieu veut vous dire, puisqu'il nous parle, il veut nous parler. S'il nous a réconciliés avec lui, c'est pour avoir une relation avec lui. Dieu parle. Faites le test si vous n'y croyez pas. Priez, dites, voilà, toi Dieu qui n'existe pas, selon moi, je te demande, si tu existes, de venir dans mon cœur. Vous allez voir que le Seigneur répond aux prières. Cœur sensible, conscient de la gravité de ses péchés au point de s'en détourner, de les abandonner, et humble au point de dire pardon pour les péchés anciens et pour ceux qu'on commet encore, puisqu'on n'est pas parfait. Mais croyant que Dieu va nous aider à ne plus en commettre, et de moins en moins en tout cas, jusqu'au beau jour où on sera parfait avec le Seigneur. Et libre de toutes nos chaînes qui nous lient ainsi bas. Amen. Merci Seigneur pour ces plans merveilleux que tu nous as dévoilés par ta parole. C'est pour ça que nous aimons lire ta Bible. C'est parce qu'elle nous dévoile tous les trésors de ton amour. Merci Jésus d'avoir donné ta vie à la croix pour nous et qui nous permet aujourd'hui d'être sauvés. Je suis reconnaissant pour ma part d'avoir obtenu de toi le pardon de mes péchés et je veux en faire profiter. Seigneur, aide-moi avec avoir une langue exercée. Comme la plume d'un habile écrivain, pour pouvoir parler de toi, et que beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, soient au bénéfice de ce que j'ai reçu, ce que quelques-uns ici ce soir encore ont reçu, et que le monde soit sauvé par toi, non pas par nos efforts, non pas par nos œuvres, mais par ta grâce, par le moyen de la foi. Amen.